Audible Studio présente L'échiquier du mal, tome 1, de Dan Simmons, traduit de l'américain par Jean-Daniel Breck, lu par Juliette Croizat et François Montagu. Né en 1948 dans l'Illinois, Dan Simmons a exercé pendant de nombreuses années le métier d'enseignant avant de se consacrer entièrement à l'écriture. Peu connu avant 1989, il acquiert immédiatement, avec la parution d'Hyperion et de L'échiquier du mal, le statut d'auteur majeur de la science-fiction contemporaine. Mais Dan Simmons est également l'auteur d'œuvres plus intimes, oscillant entre science-fiction et fantastique, où il examine tout aussi brillamment les angoisses et les souffrances inhérentes à la condition humaine. Les larmes d'Icar, paru en 1989, L'homme nu, en 1992, ou le recueil de nouvelles intitulé « Le Styx coule à l'envers ». À Ed Bryant. Remerciements. Tout livre qui réussit la longue traversée menant à la publication est assisté par d'autres esprits et d'autres mains que ceux de son seul auteur. Mais un roman de cette taille et de cette ambition accumule plus de dettes que la plupart des autres. Je tiens à remercier un certain nombre de personnes qui ont aidé L'échiquier du mal à arriver à bon port contre vents et marées. Dean R. Koontz, dont les aimables encouragements ont été aussi opportuns que généreux. Richard Curtis, dont j'ai pu apprécier la persistance et le professionnalisme. Paul Micol, dont le goût est impeccable et dont l'amitié m'est chère. Brian Thompson, dont j'ai pu apprécier l'amour des échecs et le respect de l'histoire. Simon Hawke, armurier dans la grande tradition de Geoffrey Boothroyd. Arlene Tennis, dactylo hors pair, pour ses chaudes journées d'été passées à taper les avant-dernières versions des révisions révisées. Claudia Lockerquist, qui m'a patiemment rappelé que les trémas et autres signes diacritiques ne devaient pas être saupoudrés au hasard comme des grains de sel. Wolf Blitzer, du Jérusalem Post, qui m'a aidé à trouver le meilleur vendeur de falafel de Haïfa. Ellen Datlow, qui m'a affirmé que je ne pourrais pas écrire de suite à la nouvelle qui a donné naissance à ce livre. Et mes plus vifs remerciements à Kathy Sherman, qui a collaboré avec enthousiasme aux illustrations de la première édition de ce livre, en dépit d'un délai très bref et d'un salaire très mince. Ma fille Jane, qui a attendu patiemment pendant les deux tiers de sa vie que papa finisse son livre à faire peur. Karen, qui a toujours été impatiente de connaître la suite. Et finalement, mes remerciements les plus sincères à Edward Bryant, le gentleman et excellent écrivain auquel ce livre est dédié. Non, désespoir, putride réconfort, je ne veux pas me repaître de toi, ni dénouer, tout l'âge qu'il soit, les derniers fils de l'homme en moi, ni, tout épuisé que je sois, m'écrier « Je ne peux plus ». Gérard Manley Hopkins. Prologue. Chelmno, 1942. Saul Lasky gisait parmi les morts en sursis dans un camp d'extermination et pensait à la vie. Saul frissonnait dans le noir et le froid, s'efforçant de se rappeler les détails d'un matin de printemps. La lumière dorée qui caresse les branches des saules ployant au-dessus du ruisseau. Le champ de pâquerettes blanches derrière les bâtiments en pierre de la ferme de son oncle. Le baraquement était plongé dans un silence que venaient seulement troubler les quintes de toux rauques et les mouvements furtifs des musselmaners, les morts vivants, qui cherchaient vainement un peu de chaleur dans la paille froide. Un vieillard fut secoué par une toux spasmodique, signalant la fin d'une longue lutte désespérée. Il serait mort à l'aube, ou, s'il survivait à la nuit, il n'aurait pas la force d'aller dans la neige répondre à l'appel du matin, ce qui signifiait qu'il serait mort avant midi. Saul se recroquevilla pour échapper aux rayons du projecteur qui transperçait les vitres en verre dépoli et se tassa contre les mortaises de sa couche. Des échardes lui rappèrent le dos et les côtes à travers le mince tissu de son vêtement. Ses jambes se mirent à trembler sous l'effet de la fatigue et du froid. Saul agrippa ses maigres cuisses et les serra jusqu'à ce qu'elles aient cessé de trembler. « Je vivrai. » Cette pensée était un ordre, un impératif qu'il s'enfonçait dans le crâne avec tant de force que même son corps affamé et meurtri ne pouvait défier sa volonté. Quelques années plus tôt, une éternité plus tôt, Oncle Moshe avait promis au jeune Saul de l'emmener à la pêche près de sa ferme de Cracovie. Et Saul avait trouvé un truc pour se lever à l'heure. Juste avant de s'endormir, il imaginait un galet bien lisse sur lequel il écrivait l'heure précise à laquelle il souhaitait se réveiller. Puis il laissait tomber le galet dans une mare limpide et le regardait en esprit se poser doucement au fond de l'eau. Le lendemain matin, il se réveillait toujours au moment voulu, alerte, vivant, respirant l'air frais du matin et savourant le silence qui précédait l'aube avant que le réveil de son frère et de ses sœurs ne vienne en rompre la fragile perfection. « Je vivrai. » Saul ferma les yeux de toutes ses forces et regarda le galet sombrer dans l'eau claire. Son corps se remit à trembler et il pressa son dos contre les angles durs de la planche. Pour la millième fois, il essaya de se nicher au creux de la paille. Son pauvre lit était beaucoup plus confortable lorsque le vieux monsieur Chistrouk et le jeune Ibrahim le partageaient avec lui. Mais Ibrahim avait été fusillé à la mine, et monsieur Chistrouk était mort 2 jours plus tôt, à la carrière. Il s'était assis par terre et avait refusé de se lever, même lorsque Gluex, le chef des SS, avait lâché son chien. Le vieil homme avait agité les bras dans un geste presque joyeux, pitoyable adieu adressé aux prisonniers qui observaient la scène, et le berger allemand l'avait égorgé 5 secondes plus tard. « Je vivrai. » Cette pensée avait un rythme propre qui transcendait les mots, le langage. Cette pensée servait de contrepoint à tout ce que Saul avait vu et vécu durant les 5 mois qu'il avait passé au camp. « Je vivrai. » Cette pensée diffusait une lumière et une chaleur palpitantes qui repoussaient en partie la fosse glacée et vertigineuse qui menaçait de s'ouvrir en lui pour le consumer. La fosse. L'abîme. Saul avait vu l'abîme. Avec les autres, il avait jeté des pelletées de terre froide et noire sur les corps encore chauds, parfois encore animés, tel celui d'un enfant qui agitait doucement les bras pour signaler sa présence à un parent venu l'accueillir à la gare, ou aurait bougé dans son sommeil. Il avait répandu de la chaux vive sur les corps pendant que le SS le surveillait, nonchalamment assis au bord de la fosse, ses mains blanches et bien propres posées sur le canon noir et luisant de son pistolet mitrailleur, un emplâtre collé sur sa joue rugueuse, là où il s'était coupé en se rasant. Là où la coupure en question était déjà en train de guérir, pendant que des formes nues et blanches continuaient de remuer faiblement dans la fosse que Saul emplissait de terre, les yeux rougis par le nuage de chaux, pareil à un banc de brume crayeuse flottant dans l'air hivernal. « Je vivrai. » Saul se concentra sur la force de ce rythme et oublia ses membres tremblants. Deux niveaux au-dessus de lui, un homme sanglota dans la nuit. Saul sentait les poux ramper le long de ses bras et de ses jambes, en quête de sa chaleur mourante. Il se recroquevilla encore plus sur lui-même, comprenant l'impératif qui dictait les mouvements de la vermine, réagissant au même ordre stupide, illogique, irrépressible. « Continue. » Le galet s'enfonça encore un peu plus dans les profondeurs azurées. Saul distingua les lettres malhabiles alors qu'il parvenait au seuil du sommeil. « Je vivrai. » Saul ouvrit brusquement les yeux, refroidi par une pensée encore plus glaciale que le vent qui sifflait à travers le châssis des fenêtres. On était le 3e jeudi du mois. Saul était presque sûr qu'on était le 3e jeudi. Il venait le 3e jeudi. Mais pas toujours. Peut-être pas ce jeudi-ci. Saul enfouit son visage dans ses bras et adopta une position fœtale encore plus accentuée. Il allait s'endormir lorsque la porte du baraquement s'ouvrit bruyamment. Ils étaient 5. 2 Waffen-SS armés de mitraillettes, un sous-officier de l'armée régulière, le lieutenant Schaffner, et un jeune Oberst que Saul n'avait jamais vu. L'Oberst avait un visage pâle d'Arien. Une mèche de cheveux blonds retombait sur son front. Leurs torches se promenèrent le long des rangées de lits superposés. Personne ne bougea. Saul percevait le silence produit par les 85 squelettes retenant leur souffle dans la nuit. Il retint son souffle. Les Allemands avancèrent de 5 pas dans le baraquement, précédés par des bouffées d'air froid, et leurs silhouettes massives se découpèrent à contre-jour devant le seuil, entourées par la brume givrée de leur souffle. Saul s'enfonça encore un peu plus dans la paille cassante. « D'où ?» fit une voix. Le faisceau de la torche s'était posé sur une silhouette rayée et encagoulée, tapie dans les profondeurs d'une couchette, située à 6 rangées de celle de Saul.
« Comme Schnell !»
Comme l'homme ne bougeait pas, les 2 SS le firent descendre sans ménagement de son lit. Saul entendit ses pieds nus racler le sol.
« D'où ? Raus !»
Et encore une fois,
« D'où ?»
À présent, 3 Musselmänner, 3 épouvantails éthiques, se tenaient debout devant les silhouettes massives. La procession fit halte à 4 lits de Saul. Les 2 SS balayèrent la rangée centrale du rayon de leur torche. Des yeux rouges reflétèrent la lumière, des yeux de rat tapis dans des cercueils mal fermés.
« Je vivrai !»
Pour la première fois, ces mots étaient une prière plutôt qu'un impératif. Jamais il n'avait pris plus de 4 hommes dans un baraquement donné.
« D'où ?»
Le garde s'était retourné et braquait sa torche en plein sur le visage de Saul. Celui-ci ne bougea pas, cessa de respirer. L'univers était réduit au dos de sa main, situé à quelques centimètres de son visage. La peau était blanche, blanche comme une larve, et crevassée par endroits. Les poils qui y poussaient étaient très sombres. Saul les contempla avec un profond étonnement. À la lueur de la torche, la chair de sa main et de son bras semblait presque transparente. Il distinguait sans peine les couches de muscles, le dessin élégant des tendons, les veines bleues qui battaient doucement au rythme effréné de son cœur.
« D'où ? Raus ! »
Le temps ralentit et pivota sur son axe. Toute la vie de Saul, la moindre de ses secondes, chacune de ses extases et chacun de ses après-midi banals et oubliés, avait conduit à cet instant-ci, à cette intersection. Les lèvres gercées de Saul s'écartèrent pour former un sourire sans joie. Il avait décidé depuis longtemps qu'il ne l'emmènerait pas ainsi dans la nuit. Il devrait le tuer, ici, devant les autres. Au moins aurait-il le pouvoir de dicter l'heure de son meurtre à ses assassins. Un grand calme descendit sur lui.
« Schnell !»
Un des SS hurla après lui, et tous deux s'avancèrent. Saul fut aveuglé par la lumière. Il sentit une odeur de laine humide et le doux parfum du schnapps dans la laine d'un des 2 hommes. Sentit l'air glacé qui caressait son visage. Sa peau se contracta dans l'attente des mains brutales qui allaient la gripper.
« Nein !»
aboya le jeune Oberst. Saul ne vit de lui qu'un sombre simulacre d'homme, nimbé d'une lueur incandescente.
« Zurücktreten !»
L'Oberst avança d'un pas tandis que les 2 SS reculaient en hâte. Le temps semblait figé lorsque Saul leva les yeux vers cette forme noire. Nul ne disait mot. La brume de leur souffle flottait autour d'eux.
« Comme ?»
dit doucement l'Oberst. Ce n'était pas un ordre. L'homme avait prononcé ce mot avec douceur, presque avec amour. Comme s'il avait appelé son chien préféré ou encouragé son fils à faire ses premiers pas.
« Come here !»
Saul serra les dents et ferma les yeux. Il les mordrait lorsqu'il viendrait le prendre, s'attaquerait à leur gorge, déchirerait veines et cartilages jusqu'à ce qu'il soit obligé de la battre. Il serait bien obligé de tirer, il serait bien forcé de...
« Come !»
L'Oberst se tapota le genou. Les lèvres de Saul se retroussèrent. Il allait bondir sur ces salopards, déchirer la gorge de ce fumier sous les yeux des autres, lui arracher tripes et boyaux.
« Comme !»
Saul sentit quelque chose. Quelque chose le frappa. Aucun des Allemands n'avait bougé, ne fût-ce que d'un pouce, mais quelque chose frappa Saul au creux des reins. Il hurla. Quelque chose le frappa, puis le pénétra. Saul ressentit cette intrusion aussi violemment que si on lui avait enfoncé une tige d'acier dans l'anus. Et pourtant, rien ne l'avait touché. Personne ne s'était approché de lui. Saul hurla de nouveau, puis ses mâchoires se refermèrent sous l'effet d'une force invisible.
« Come here, du Jude !»
Saul le sentit. Quelque chose était en lui, le forçait à redresser le dos, secouait ses membres de spasmes violents. En lui. Il sentit cette chose se refermer sur son cerveau comme un étau, serré et serré encore. Il essaya de hurler, mais cela lui fut interdit. Il entra en convulsion sur la paille, ayant perdu la maîtrise de ses nerfs, et urina dans ses pantalons. Puis il s'arc-bouta violemment et son corps tomba sur le sol. Les deux gardes reculèrent d'un pas.
« Aufstehen !»
Le dos de Saul s'arqua une nouvelle fois, si violemment qu'il se retrouva à genoux. Ses bras tressaillaient et s'agitaient tout seuls. Il sentait quelque chose dans son esprit, une présence froide drapée dans une étincelante aura de douleur. Des images dansaient devant ses yeux. Saul se releva.
« Geh !»
Bruit du rire gras émis par un SS, odeur de la laine et de l'acier, écharde froide qui raclait ses pieds. Saul s'avança en titubant vers la porte ouverte et vers l'étendue blanche, aveuglante du dehors. L'Oberst le suivit doucement, faisant calmement claquer un gant sur sa cuisse. Saul descendit les marches en trébuchant, faillit tomber, fut redressé par une main invisible qui lui enserrait l'esprit et envoyait les aiguilles de feu dans chacun de ses nerfs. Pieds nus, insensible au froid, il prit la tête de la procession dans la neige et dans la boue jusqu'au camion qui attendait son chargement.
« Je vivrai !» pensa Saul Lasky.
Mais le rythme magique s'effilocha, s'envola, emporté par une bourrasque de rires glacés et silencieux, et par une volonté bien plus forte que la sienne.